Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous êtes bien à l'écoute de Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre émission littéraire. Jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une conférence que nous avons enregistrée à Domcy-sur-Cure le 8 août dernier. Conférence proposée par l'Association des Amis du Vieux Domcy. Et le conférencier n'est autre que le maire de cette commune. C'est Marc Potet, agrégé de mathématiques, qui se passionne pour l'histoire locale à partir de recherches généalogiques. Il est l'auteur de deux ouvrages intitulés « Les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes ». Il a également signé « Les inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure » et tout à fait en lien avec le thème de la conférence que vous allez découvrir d'ici quelques minutes, il a signé une biographie consacrée à Simon-Noël Dupré. Cette biographie a pour titre « Le docteur Dupré, un morvandiau extraordinaire ». Né à Carré-les-Tombes, le père Dupré, comme on l'appelait, après y avoir exercé la médecine, eh bien, sa route le conduit à Paris, où il enseigne comme professeur libre, donc non admis par la faculté. Alliant originalité et rigueur scientifique, il utilise la poésie comme support pédagogique, enthousiasmant ses élèves et déstabilisant l'institution. Néanmoins, ses apports en recherche médicale en font un maillon fertile dans le développement de la connaissance médicale. Il s'est aussi instauré chansonnier et critique. C'est un homme du 19e siècle qui participe avec le même humour créateur au combat politique libertaire de l'époque. Il en partage les enthousiasmes, les visions prophétiques en même temps que les préjugés. Je vous propose donc, sans trop tarder, de découvrir ce personnage du docteur Dupré à travers la conférence de Marc Potet que nous avons donc enregistrée pour vous cet été à Domcy-sur-Cure le 8 août dernier. La conférence s'ouvre par un texte du docteur Dupré qui est lu par Bruno Davio, président de l'Association des Amis de Domcy-sur-Cure. Tout au long de cette conférence de Marc Potet, il y a ce que j'appellerais des récitants qui nous ont offert la lecture de poèmes du docteur Dupré, mais aussi certains de ses textes. Il s'agit de Catherine Potet, Christophe Potet et Bruno Davio qui ouvrent la conférence par quelques mots du docteur Dupré.
Loin de moi la splendeur dont l'éclat s'environne, loin de moi des héros la brillante couronne. Modeste dans mes goûts, ainsi qu'en mes désirs, en un labeur obscur, je cherche mes plaisirs, et sans que jamais rien pût lasser ma constance, détruire mon ardeur, briser mon espérance, j'allais, de la nature inscrivant les secrets, lisant et relisant les éternels décrets. De l'homme, j'admirais la grande architecture, l'arrangement parfait et l'intime structure. Je scrutais dans les corps, le scalpel à la main, les ressorts inconnus de l'organisme humain. Et lorsque j'eus appris l'art qui nous fait connaître ses secrets merveilleux, à mon tour je fus maître. J'ai vécu sans jamais, pour prix de mon labeur, convoiter la fortune avec la croix d'honneur. Pour moi, la vérité sort de l'expérience. Il n'est d'autres autels que ceux de la science. La science est ma foi, c'est ma religion, et de mon cœur ardent, l'unique ambition.
Voilà un autoportrait qui dévoile un petit peu ce
qui est Simon Noël Dupré. Simon Noël Dupré, et on a plusieurs carréens dans la salle, était totalement oublié à Carré-les-Tombes. Et même comme sa famille était partie de Carré depuis longtemps, sa tombe n'existe plus au cimetière, elle a été relevée. Je l'ai trouvé par hasard. Je l'ai trouvé en faisant des recherches. J'avais pour habitude de faire des recherches, j'ai toujours l'habitude d'ailleurs, sur des petits personnages. Et en cherchant un autre personnage, je suis tombé sur Simon Noël Dupré. Au départ, je voulais juste faire un petit article sur lui. Et puis, petit à petit, en apprenant à le connaître, j'ai décidé de faire un ouvrage sur lui pour rendre hommage à la mémoire de ce génial original. Je vais vous livrer ici un personnage entier, dans la force de sa liberté, de ses engagements, dans l'étincelle de ses idées et de sa pédagogie, mais aussi dans ses faiblesses et ses zones d'ombre. Alors d'abord, jetons un œil un petit peu sur la famille du docteur Dupré. J'ai commencé mes recherches par la généalogie, donc j'étais très à l'aise pour faire des recherches sur le docteur Dupré. Évidemment, c'est une famille bien morvandelle. On remonte dans son arbre généalogique. Alors, j'aurais peut-être pu remonter encore plus loin, mais bon, je me suis arrêté au XVIIe siècle, à Jean Dupré et Marie Guérin, qui étaient laboureurs et habitaient la rue Chenot d'abord et le Montat ensuite. Alors, à l'époque, maintenant la rue Chenot, c'est commune de Châtelut, mais à l'époque, les deux hameaux étaient sur la paroisse de Saint-André-en-Morvan, puisque la paroisse de Châtelut n'a été créée qu'en 1676. Donc voilà, un petit œil sur l'arbre généalogique. Génération d'après, on arrive à Nicolas Dupré, Nazette Verbois, Laurent Dupré, Edmé Verbois. Et on a César Dupré. Alors César, lui, il est resté à Châtelut. Il a eu une descendance, puisque apparemment, il y a encore des Dupré à Châtelut, où il y en avait encore très récemment. Nicolas et Laurent sont allés se marier à Saint-Léger-Vauban avec deux filles Verbois du hameau de Trinclin. Le hameau de Trinclin, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est non loin de Carré-les-Tombes. Je vais vous montrer une belle photo. Voilà. C'est assez grand, même si maintenant, il doit y avoir qu'une trentaine d'habitants. Donc la branche qui nous intéresse, c'est Nicolas et Nazette Verbois, qui ont eu un bon nombre d'enfants, dont deux garçons, Simon et Pierre, qui se sont encore mariés. C'était la mode à l'époque, hein, on se mariait entre frères et sœurs. Avec deux sœurs du hameau de Mézoc de Froid dans les places, Reine Taboureau et Sébastienne Taboureau. On repart de Pierre et Sébastienne et on arrive à Jean Dupré, alors qui a eu une première épouse, Claudine Robot, toujours pareil, se marie à Saint-Léger-Vauban. Ils sont installés d'abord à Ruère et puis ensuite en banlieue de Ruère, à La Provenchère. Voilà, c'est une petite ferme. Qui est encore là. Voilà. Malheureusement, Claudine est décédée. Dans l'arbre généalogique, on retrouve beaucoup de gens qui meurent très jeunes, beaucoup d'enfants qui meurent en bas âge. Et donc, il s'est remarié avec Michel Bousnat, encore une jeune fille de Saint-Léger. Il s'installe à Beauvilliers. Pareil, j'ai trouvé une belle carte postale de Beauvilliers avec le facteur. Alors, c'est un peu plus tard, hein. Voilà, allez visiter ces petits villages qui sont très jolis. Donc, ils sont installés à Beauvilliers. Ils ont eu 6 enfants. Et là, c'est exceptionnel parce qu'ils ont tous atteint l'âge adulte, les enfants, ce qui est plutôt rare. Dont l'un qui s'appelait Rémi et qui s'est marié avec une Madeleine Chevillotte. Alors, ils ont quitté Beauvilliers pour Villiers-les-Poteaux. Après, ils sont installés à Saint-Agnan. Toutes ces familles, ça bougeait pas mal. Ils étaient souvent métayers, ouvriers agricoles, laboureurs. Donc, ils se déplaçaient pas mal. Donc, à Saint-Agnan, ils ont eu 3 enfants. Et puis, malheureusement, Rémi est décédé très jeune et son père Jean est décédé l'année d'après. Donc, la pauvre Madeleine Chevillotte, elle s'est réfugiée dans son village de Villiers-les-Poteaux où il y a une grande solidarité entre Morvandiaux et où elle a pu élever ses enfants. Et donc, le petit Melchior Rémi, qui a eu un destin assez bon, puisque Il est devenu instituteur et il s'est marié avec une riche fille de marchand de bois. À l'époque, en Morvan, beaucoup de gens sont devenus riches avec le commerce du bois, avec le flottage, tout ça. Voilà, donc Melchior Rémy Dupré, c'est le père de notre héros Simon Noël. Et vous voyez que Melchior Rémy et Catherine Pierrette III ont eu 4 enfants, Simon Noël, Anne-Marie Louise, Médéric et Clara. Je reparlerai plus tard. Voilà, et donc ils s'installent à Carré-les-Tombes. Ils habitaient derrière l'église. Voilà. Vous voyez, tout au fond derrière l'église. Alors, je ne sais pas si la configuration était exactement celle-là à l'époque, il y a 200 ans. On a des carréens, mais ouais, ça n'a pas beaucoup changé. Là, la photo est des années 50. Hein. Ça a dû changer quand même. Voilà, et évidemment, on cherchait l'acte de naissance. Donc là, il est super bien écrit, hein. Je ne vais pas le lire en entier, mais l'an 1814, le 25 décembre, à 6h du matin, à 10h du matin, pardon, par devant nous, François Pinard, maire de la commune de Carré-les-Tombes, chef-lieu de canton, arrondissement d'Avallon, département de l'Yonne, y faisant les fonctions d'officier d'état civil sous-signé, est comparu le sieur Melchior Rémy Dupré, instituteur demeurant au dit carré,
qui nous a présenté
un enfant de sexe masculin, né au dit lieu de Carré, le jour d'hier à midi, de lui déclarant et de dame Catherine Pierrette III, son épouse, auquel enfant il a donné les prénoms de Simon
et Noël. Alors Noël, c'était peut-être pas prévu au départ, mais vu qu'il l'a déclaré le 25 décembre, on comprend bien qu'il l'a appelé Noël. Alors un truc amusant dans cet acte, le deuxième témoin, c'est Lazare Bonneau, sonneur, qui demeurait au dit Carré-les-Tombes, et Lazare Bonneau, c'est le père d'un autre de mes héros dont j'ai fait la biographie et sur lequel j'ai fait des conférences, le grammairien Jean-Marie Bonneau. Alors, je pense que les familles se connaissaient bien. Donc, vous voyez, le monde est petit. Alors, dans une famille comme ça, puisque le papa de Simon Noël est instituteur... Évidemment, c'est un milieu plutôt favorisé, plutôt culturel. Donc Simon se tourne tout naturellement vers les études. Son père est son premier professeur. Mais à ce moment-là, et encore un petit peu maintenant, la profession d'enseignant n'est pas très rémunératrice. Donc, son papa Melchior Rémy, eh ben, il devient huissier, ce qui devait plus rapporter à l'époque. Et donc, la famille, quand même, est assez favorisée. Donc, le petit Simon Noël a plein de promesses. Donc, en 1834, il quitte Carré-les-Tombes pour, comme on dit, faire sa médecine à Paris. Voilà. J'ai une vue de l'école de médecine à l'époque. On m'a dit que ça n'avait pas tellement changé. C'est plus la fac de médecine maintenant, je crois pas. Voilà. Et on a affaire à un excellent étudiant qui réussit très bien ses examens. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais extrêmement satisfait, très satisfait, ça devait être bien quand même. Donc, on a un brillant étudiant qui se passionne pour la physiologie, qui suit les cours de Bérard, de célèbres physiologistes, de Velpo. Ah ben, Velpo, on le connaît, avec la bande Velpo. Et aussi de Magendie. Alors, Magendie a une théorie, il prétend que la strychnine tue les animaux par asphyxie. Et Dupré, il n'est pas convaincu de cette théorie. Donc, il mène des expériences sur des grenouilles. Sur certaines, il enlève le cœur et les poumons, alors qu'il en empoisonne d'autres, tout en laissant leurs organes intacts. Ces dernières succombent toujours avant les premières, ce qui démontre l'opinion de Dupré. Et ça devient le sujet de la thèse de Dupré, qui est intitulée « Influence de la strychnine sur les fonctions de la moelle épinière chez les grenouilles ». Elle est soutenue le 6 mars 1840 à la Faculté de médecine de Paris. Je crois que je ne l'ai pas retrouvée, celle-là. Son exposé est complété par des réponses à 4 questions sur diverses parties de l'enseignement médical. Donc le jury octroie la mention bien satisfaite à Dupré et qui se montre particulièrement savant sur la question de la cure radicale des hernies. Donc c'est un sujet qu'il approfondira.
Il a aussi, à ce moment-là, lu un mémoire à l'Académie de médecine, donc il commence à avoir une certaine notoriété à Paris, mais il n'est pas assez fortuné pour s'installer à Paris. Donc il revient provisoirement dans son village natal de Carré-les-Tombes. Pendant 2 ans et demi, il exerce à Carré. C'est un jeune médecin dynamique, savant, efficace, il est apprécié de tous, et en plus, il a la tâche importante de s'occuper des enfants assistés. À ce moment-là, autour de 1830-1840, il commençait à y avoir beaucoup d'enfants assistés qui étaient élevés par les Morvandiaux, particulièrement à Carré-les-Tombes. Il reprend ses expériences, encore une fois, pour vérifier une théorie de Magendy. Alors là, il pense peut-être que ça va mieux se passer pour lui, parce que cette fois-ci, au lieu de contredire Magendy, il prouve une théorie qui était contestée, encore avec des expériences avec des grenouilles. Alors, tout heureux de ça, il repart à Paris pour exposer ses théories au monde scientifique. C'est un départ particulièrement pénible, surtout pour son père, qui voit son fils partir et qui sait bien qu'il ne le reverra pas souvent. Le 31 juillet 1843, il lit un mémoire sur ses travaux à l'Académie des sciences. 3 commissaires sont nommés, dont Magendy. Ils sont un peu dédaigneux, ce qui déçoit complètement Dupré. Du coup, il est aussi peu soucieux de courir la clientèle, donc il décide de se tourner vers l'enseignement. Et il va devenir professeur. En 1843, il ouvre un cours libre d'anatomie à l'école pratique de la faculté de médecine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un cours libre ? À l'époque, il y avait l'enseignement officiel, purement théorique. Voilà, qui se passait dans des grands amphithéâtres comme ça. Et il y avait des professeurs libres, rétribués par leurs élèves, qui enseignent la médecine de façon pratique, originale et novatrice. Donc ils doivent se procurer des sujets pour les disséquer, et il faut les conserver le plus longtemps possible en bon état, parce qu'on leur fournit les cadavres au compte-gouttes. Alors le docteur Dupré, qui était vraiment un fin scientifique, il remarque que les procédés employés pour la conservation des corps présentent un gros inconvénient, l'introduction d'eau dans les cadavres qui ramollit et macère les tissus. Donc il décide de faire pénétrer les substances antiseptiques, non par voie liquide, mais sous forme gazeuse. La matière à distiller, donc c'est 500 g de charbon de bois pulvérisé et 1 kg d'acide sulfurique concentré, est placée dans une cornue fermée par un bouchon en liège. On fait passer une des extrémités d'un tube en plomb au travers de ce bouchon. L'autre extrémité est adaptée à une des artères principales du sujet. On chauffe et l'acide sulfureux obtenu passe dans le cadavre par distillation. Alors c'est une technique un peu révolutionnaire à l'époque. Encore une fois, Dupré lit un mémoire à l'Académie des sciences. Et puis, l'Académie, elle a aussi, à ce moment-là, d'autres méthodes. Donc on décide de tester les différentes méthodes. Alors c'est un peu macabre, mais pour ça, comment on fait ? Eh bien, on prend trois cadavres, on les enterre, les 3 docteurs embaument chacun des cadavres par leur méthode, et puis un an après, on déterre le cadavre, on ouvre le cercueil, et puis on regarde ce qui s'est passé. Voilà. Bon, on ne ferait pas ça maintenant, hein. Mais à l'époque, ils étaient moins écolo que nous. C'est pareil, les expériences, ils faisaient des expériences sur les chiens. Claude Bernard, il tuait beaucoup de bêtes. Ça ne serait plus possible maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on ouvre les cercueils, le cadavre embaumé par Dupré, il est dans un état lamentable. Je passe les détails. Celui de Ganet aussi. Par contre, celui du docteur Suquet, il est parfaitement intact. Donc le pauvre Dupré, il a perdu le concours. Mais en fait, sa méthode, elle lui servait pour des questions pratiques, pour conserver les cadavres pendant quelques temps, pour pouvoir présenter l'anatomie à ses élèves. Donc en fait, ce n'est pas une erreur qu'il a faite, c'était pour l'aspect pratique. De toute façon, le docteur Dupré n'est pas trop déçu parce qu'il a beaucoup de succès dans son enseignement. Il a la parole facile et imagée. Il captive son auditoire par son éloquence fougueuse. Il accompagne son discours de beaux mots, sans jamais tomber dans la vulgarité. Il enseigne aux enseignants à faire de la médecine opératoire et les prépare avec succès aux examens d'anatomie. au contraire des professeurs officiels qui souvent sont très préoccupés par leur carrière mais se moquent complètement des étudiants. Il est dévoué, consciencieux et soucieux de la réussite des enseignants. Ce qu'on dit, c'est que dans les leçons du docteur Dupré, on apprend la médecine, alors que dans les cours du grand amphithéâtre, on entend parler de médecine, mais on ne l'apprend jamais.
À l'instant, Marc Potet, dans cette conférence consacrée au docteur Dupré que nous avons enregistrée le 8 août dernier à Domcy-sur-Cure et que nous partageons avec vous dans Wagon Livre sur Radion, Marc Potet, qui a signé une biographie consacré à ce pittoresque et singulier personnage, le père Dupré, biographie qui a pour titre « Le docteur Dupré, un morvandio extraordinaire ». Je rappelle que Marc Potet est aussi le maire de la commune de Domcy-sur-Cure. La suite de cette conférence, juste après la virgule musicale que nous vous proposons, tout de suite Lola Lelanne, Soleil, ses wagons livres sur Radio, on se retrouve juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Sans trop tarder, la suite de la conférence de Marc Potet consacrée au docteur Dupré, scientifique ingénieux, pédagogue brillant, versificateur habile, orateur éloquent. Simon-Noël Dupré n'a pourtant pas réussi aussi bien qu'il aurait pu l'espérer, tant dans le quartier latin où il vivait qu'à Carré-les-Tombes, son village natal. Le docteur Dupré est trop vite tombé dans l'oubli. Marc Potet lui rend hommage, notamment dans une biographie qu'il lui a consacrée et qui a pour titre « Le docteur Dupré, un morvandio extraordinaire ». Marc Potet.
Il invente une multitude de formules mnémotechniques. Il met en vers des chapitres de l'anatomie. Dupré a une mémoire prodigieuse. Il écrit même pas ses poèmes. Il les retient et les auditeurs les notent au vol. Il y en a très peu qui sont publiés, sauf un célèbre poème sur les nerfs crâniens que nous allons écouter.
Les nerfs crâniens. Sumrigne a compté 12 paires nerveuses. Willis n'en voit que 10 dans nos boîtes osseuses. L'olfactif tient la tête et chemine en flaireur. Puis l'optique s'élance en brillant éclaireur. Vient le moteur commun, troisième en la carrière. Il sait accommoder notre œil à la lumière. et notre œil, sur son ordre, exprime tour à tour l'humilité, l'orgueil, l'ivresse avec l'amour. Le quatrième, Oran, est un bien grêle éthique. Il a pourtant grand nom, c'est le grand pathétique. Il n'a qu'un muscle, un seul, pour humble serviteur. Ce muscle est appelé le grand proclérateur. Par lui, l'œil projeté reflète en conséquence l'horreur et le pathos que l'on nomme éloquence. Pour nous dédommager, un gros nerf après lui, sur le rocher, s'en vient prendre son point d'appui.
C'est le trifacial, ou la cinquième paire, surnommé trijumeau. De trois nerfs, il est pair. Le nerf masticateur, lui, sert le mouvement. Quant au reste, il ne vit que pour le sentiment. Ce n'est pas tout plaisir. Et la fibre nerveuse, souvent du mal, ressent l'étreinte douloureuse. Le moteur, dit externe, au mal peu résigné, fait tourner au dehors l'œil colère, indigné. Ce nerf est le sixième. Arrivent deux compères. Pour complaire à chacun, disons qu'ils font deux paires, voire même une seule. Ils vont au même trou, l'un sur l'autre couché. L'un est dur, l'autre est mou. Le dur, le facial, fait grimacer la mine. Et le mou, l'auditif, sur tous les sons, domine. Quant aux trois nerfs suivants, nous discutons encore s'ils font bien un ou trois, sans nous mettre d'accord.
Nous les voyons s'unir, puis traverser ensemble un vieux trou déchiré qui, tous trois, les rassemble. D'abord, ouvre la marche un forcené buveur, le glossopharyngien, ce terrible soifeur. Il lui faut mets corsés à grand renfort d'épices, force absinthe et bitère, ses plus chères délices. Le suit et le dépasse un chevalier errant, tout cœur, voix et poumons, estomac dévorant. Voilà pour son portrait tracé d'après nature. C'est le pneumogastrique en la nomenclature. Il entraîne avec lui le spinal, nerf moteur, puis vint seul l'hypoglosse, éternel radoteur. J'ai fini mon tableau. Un lien sympathique unit ces 12 nerfs vivants en République. Et cette histoire-là, je veux conter un jour. Je m'arrête aujourd'hui, chaque chose à son tour.
Alors, inutile de dire qu'avec des méthodes modernes comme cela, il est très apprécié des élèves. Donc, il le surnomme familièrement le père Dupré. L'extraordinaire succès de son enseignement pousse Dupré tout naturellement à tenter le concours de l'agrégation. Alors, l'agrégation, à l'époque, c'était un concours extrêmement difficile. C'est en 1853 qu'il le tente pour la première fois, avec trois confrères, Fano, Segond et Verneuil. Donc, il y a quatre concurrents pour seulement deux places. Le 9 juin 1853, le concours commence par la composition écrite. Le sujet commun aux quatre candidats s'intitule « L'os, anatomie de texture, physiologie, chimie, le rachitisme ». Le 15 juin, Dupré présente une leçon orale de trois quarts d'heure après 3 heures de préparation sur le diaphragme. Deux semaines plus tard, le 29 juin, après 24 heures de préparation, il doit faire un exposé d'1 heure sur la glotte, anatomie et physiologie. Comme sujet de thèse, j'ai retrouvé sa thèse là, il tire au sort une étude sur les tissus élastiques, anatomie et physiologie. Il soutient ce travail le 10 août. Donc vous voyez, ça a commencé le 9 juin, ça finit le 10 août l'agrégation, c'est 2 mois. Après cette dernière épreuve, le jury vote. Alors, pour la première place, c'est Verneuil qui est choisi et Dupré n'obtient qu'une voix. Pour la deuxième place, et là on pense que c'est fait exprès, c'est Segond qui est nommé. Avec 7 voix contre 1 à Fano. Le docteur Dupré est très déçu de ce résultat, mais il ne se décourage pas. Il se représente en 1856 avec comme sujet le développement et la structure du système nerveux. Il monte un certain brio, mais il n'est pas nommé agrégé d'anatomie. D'ailleurs, aucun des 4 candidats ne l'est. Définitivement découragé, le docteur ne s'inscrira plus jamais au concours. Cet échec nous laisse perplexes et laisse perplexes tous ceux qui connaissent Dupré, tant est excellente sa réputation comme professeur érudit, anatomiste habile et démonstrateur incomparable. Comment on peut expliquer cet échec? Eh bien, on en parlera maintenant tout du long de l'exposé, mais c'est beaucoup à cause des prises de position de Dupré et à cause de son amitié pour François-Vincent Raspail, qui a été son professeur. François-Vincent Raspail avait déjà, à l'époque, mené des recherches sur la théorie cellulaire, et Dupré avait eu une citation qui avait couru dans tout Paris. « La cellule est toute française, elle appartient à Raspail. » Or, Raspail, le champion de la médecine libre, était détesté par la médecine officielle et donc par les membres du jury. Donc, Dupré a subi une grande injustice, d'autant plus que le deuxième, qui s'appelait Second, a abandonné très vite son poste à la faculté pour devenir artiste. Alors, Dupré avait une méthode d'enseignement moderne et particulière. Elle avait d'abord été mise au point par le grand anatomiste De Sceaux, et Dupré a modifié cette méthode. Alors, je ne vais pas la décrire en entier, mais cette méthode reposait sur trois principes. D'abord, l'observation. L'observation, il nous dit Dupré, c'est donc la base, le pivot, le fondement, la forme primitive de la méthode. C'est des articles qu'il a fait paraître dans un journal qui s'appelait L'Éducateur populaire, dirigé par Paget-Lupicin. Et Paget-Lupicin, c'était un ancien élève de Dupré. C'est incroyable, hein, c'est comme moi, on retrouve des anciens élèves partout. Alors, je relis. Donc, l'observation est la base, le pivot, le fondement, la forme primitive de la méthode. Avant d'ordonner les êtres, avant de les comparer, avant de les discuter, il faut connaître leur existence. Pas de science sans cette première notion. Ensuite, nous dit Dupré, mais observer purement et simplement ne suffirait pas pour constituer la science. Elle est non pas un amas de matériaux épars, ça et là, sans ordre et sans méthode, mais elle est un édifice qu'il faut construire, élever, orner et embellir. Souvent, un corps n'est pas simple, un phénomène n'est pas unique, le corps est composé, le phénomène est complexe. Il est nécessaire alors de diviser ce corps pour arriver à ses éléments, d'analyser ce phénomène pour découvrir ses diverses parties. Ce moyen d'investigation constitue un des procédés de la méthode, le procédé de l'analyse. Après avoir divisé, décomposé, analysé la substance et le phénomène, il est naturel de les réunir, de les recomposer, de les synthétiser. C'est le dernier procédé de la méthode, c'est la synthèse. Donc voilà un petit peu la méthode d'enseignement de Dupré. Il nous dit, pour être savant, il faut être à la fois observateur, analyseur et synthétiseur.
La vie et le parcours de Simon Noël Dupré, né à Carré-les-Tombes, qui est vraiment un digne représentant de ces inconnus célèbres originaires du Nord Morvan, Marc Potet, le conférencier que nous avons enregistré le 8 août dernier, une conférence programmée par l'Association des Amis du Vieux Domcy et que nous avons enregistrée le 8 août dernier pour Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous marquons un nouvel intermède musical avec Angèle, oui ou non.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. C'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges. C'est oui ou bien c'est non.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans quelques secondes, la suite de la conférence de Marc Potet consacrée au docteur Simon-Noël Dupré. Dupré qui a la parole facile et imagée, il captive son auditoire par son éloquence fougueuse et il accompagne son discours de bons mots sans jamais tomber dans la vulgarité. Il enseigne aux étudiants à disséquer ou à faire de la médecine opératoire et les prépare avec succès aux examens d'anatomie. Au contraire des professeurs officiels qui sont en général plus préoccupés par la conquête de la célébrité et de la fortune que par l'instruction des élèves, le docteur Dupré est consciencieux, très dévoué et soucieux de leur réussite. Dans les leçons du docteur Dupré, on apprend la médecine, alors que dans les cours du grand amphithéâtre, on entend parler de médecine, mais on ne l'apprend pas. Cet extrait de la biographie que Marc Potet a consacrée à ce médecin, biographie qui a pour titre « Le docteur Dupré, un morvandio extraordinaire ». Nous allons entendre tout de suite nos trois récitants, Catherine Potet, Christophe Potet et Bruno Davio, nous donner en vers la méthode que préconise le docteur Dupré.
Salut, mère féconde, salut, gloire en tout lieu, toi qui créas le monde et la terre et les cieux. En son immense tâche, toujours ta main construit, tu refais sans relâche ce que le temps détruit.
De ton sein, la lumière jaillit au firmament. En ton sein, la matière aspira son ferment. Sur les corps, ton empire s'étend, et sur les cœurs, sous ta loi, tout respire, les hommes et les fleurs.
Tu conçus la science en ton vaste cerveau. L'amour, à sa naissance, eut ton cœur pour berceau. La justice a ton âme pour foyer éternel et projette sa flamme sur ton front immortel.
Tu créas l'espérance, le soutien du malheur. À ce cri « délivrance », tu deviens rédempteur. Courir au sacrifice, ce fut toujours ton sort. Mais va, meurs au supplice, tu survis à la mort.
Tu vis pour l'harmonie. Tes sons, tes chants divers, tes flots de symphonie remplissent l'univers. Sur les cieux, Prométhée les conduit de ses mains. Et le sensible Orphée les redit aux humains.
Enfant, chantez la poésie, c'est l'âme de l'humanité. C'est elle qui soutient la vie et promet l'immortalité.
Alors, outre tous ces textes qu'il avait juste dans la tête et qu'il n'a pas publiés, Dupré a quand même publié quelques petits livres, dont celui-là, « La science et la méthode en face du problème social ». Donc, dans ce livre, il préconise la transformation sociale par l'enseignement. Dès le début de sa carrière à l'école pratique, Dupré subit les règlements d'Orfila. Orfila, c'était le doyen de l'école. Orfila était très fâché avec Raspail. Je vais vous expliquer pourquoi. Autour de 1843-45, il y a eu l'affaire Marie Lafarge. C'était une dame qui a été accusée d'avoir empoisonné son mari en lui donnant un gâteau. Et donc Orfila avait été mandaté pour faire des analyses. Et il avait trouvé de l'arsenic dans le gâteau. Donc Marie Lafarge était, comme on dit, mal barrée. Mais elle avait des tas de défenseurs, dont François-Vincent Raspail, qui est arrivé et qui a démontré qu'en fait, l'arsenic n'était pas dans le gâteau, mais dans les tests d'Orfila, dans ce qu'il avait utilisé pour faire les analyses. Alors évidemment, mais c'était trop tard parce qu'elle avait déjà été condamnée. L'opinion publique a pris fait et cause pour Marie Lafarge et pour François-Vincent Raspail, qui était vraiment très populaire. Orfila en a pris ombrage. Et donc comme Orfila, il sait que François-Vincent Raspail, c'est le mentor du docteur Dupré, eh bien je peux dire qu'il ne loupe pas Dupré. Donc les professeurs libres n'ont plus l'accès qu'à un seul pavillon de l'école de médecine. Ils n'ont plus d'amphithéâtre pour faire cours. Ils n'arrivent plus à avoir de cadavres pour faire leur dissection. Du coup, Dupré remue ciel et terre, parce qu'il est vraiment connu, pour que la médecine libre ne soit pas interdite. Et il écrit une lettre au ministre. « Monsieur le ministre, je tiens de personne haut placée et digne de foi que l'enseignement particulier d'anatomie et de chirurgie à l'école pratique se trouve menacé dans son existence. Cela m'étonne sous le règne actuel, car cet enseignement florissait du temps du Premier Empire, rendant hommage au talent de Bichat. Napoléon Ier, étant premier consul, avait ordonné par une lettre du 14 Thermidor en 10 que le nom de l'illustre anatomiste serait gravé à côté de celui de Dessau, son maître, sur un monument public à l'Hôtel Dieu de Paris. Or, Bichat, malgré tout son génie, n'était qu'un simple professeur particulier d'anatomie. Dernièrement encore, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des cultes, daignait honorer de sa présidence l'inauguration de la statue du professeur particulier Bichat à la faculté de médecine. Il semble donc qu'après des témoignages officiels aussi éclatants donnés en faveur de l'enseignement particulier d'anatomie à la mémoire d'un de ses plus illustres représentants, je devrais bannir toute crainte de mon esprit. Toutefois, comme les bruits prennent de la consistance, pardonnez à l'inquiétude et à l'émotion de celui qui a consacré sa vie à l'enseignement de l'anatomie, base de son existence physique, morale et intellectuelle. Vous voyez, c'est envoyé, hein, c'est des belles lettres, ça. Le ministre, quand même, il est assez sensible à la lettre, il reçoit Dupré en audience, et Dupré réussit à sauver provisoirement l'enseignement libre. Il écrit une brochure, là-dessus, de la liberté de l'enseignement médical. Voilà. Il faut dire que l'enseignement libre, non seulement les enseignants libres aidaient plus les étudiants, mais en plus ils prenaient de gros risques. Parce que quand on pratique l'anatomie, on peut se faire des piqûres anatomiques avec les ustensiles qu'on utilise pour faire de la dissection. Et les cadavres, ils n'étaient pas toujours exempts de microbes. Donc on peut aussi avoir des problèmes. Donc c'est vraiment un métier dangereux, professeur d'anatomie. Vers 1850, Dupré ouvre des leçons d'anatomie et de médecine opératoire. En plus, il ouvre un cours libre d'anatomie artistique. Très rapidement, les élèves affluent. Des peintres débutants, mais aussi des artistes confirmés qui veulent approfondir leurs connaissances anatomiques. On a Jean-Louis Hamon, François-Henri Nazon et Jean-Ernest Aubert. Lui, il avait obtenu le Grand Prix de Rome. Voilà, Jean-Louis Hamon. Donc, des peintres à l'époque connus. Alors, depuis, ils ont un peu perdu de célébrité parce que juste après, il y a eu les impressionnistes. Malheureusement, au bout de 2 ans, il doit interrompre son cours libre parce que on le décourage par toutes les tracasseries. Après, il y a eu un moment où c'est allé un peu mieux parce que Orfila est mort, donc c'était plus facile. La réputation du docteur Dupré est arrivée aux oreilles du peintre Jean-Hilaire Belloc, directeur de l'école impériale de dessin. Il choisit donc Dupré pour remplacer le professeur d'anatomie. Pendant 2 ans, le docteur Dupré s'acquitte parfaitement de sa tâche, étant même félicité pour la qualité de son travail par le ministre des Beaux-Arts lors de la distribution des prix. Mais à la fin de la 2e année, il est informé que pour pouvoir continuer ses cours, il doit être officiellement nommé professeur ou chargé de cours. On lui refuse ce titre. Donc malgré les protestations véhémentes des élèves, le père Dupré est définitivement évincé de l'école impériale de dessin. La cause, c'est toujours pareil, c'est sous l'Empire, et comme il était très républicain, très ami avec Raspail, qui n'était pas toujours en odeur de sainteté, eh bien, on lui fait payer. Alors, je vais vous parler d'une partie importante de la carrière de Dupré, les bandages hernières. À l'époque, guérir les hernies, c'était pas du tout facile parce qu'on ne pouvait pas facilement opérer. Donc, on avait des bandages hernières ou des ceintures hernières. Voilà celui de Dupré. Alors, c'était composé de quoi ? Oh, on avait ce qu'on appelle des pelotes qui agissent sur l'ouverture de l'orifice par où s'échappent les viscères et une ceinture destinée à soutenir la pelote et à lui transmettre une pression plus ou moins forte. Cette pelote a une forme qui varie et un rembourrage qui varie selon les hernies à maintenir. Elle est unie à une courroie qui peut être molle, rigide ou élastique. Les bandages à pression élastique, dont la courroie est une tige métallique qui joue le rôle d'un ressort, introduite par Dupré, maintiennent plus efficacement la pelote hernière. Le bandage inventé par le docteur Dupré est désigné sous le nom de bandage à pression rigide. Donc c'est celui qu'on voit, et il s'avère très efficace pour des hernies compliquées. Donc les clients affluent, et le docteur Dupré, qui a beaucoup moins d'élèves dans ses cours à cause de toutes les tracasseries qu'on lui fait subir, arrive à s'en sortir financièrement grâce à ça. Il lit un nouveau rapport à l'Académie de médecine le 2 février 1869, et là c'est la gloire. L'avenir du bandage du docteur Dupré s'annonce radieux. Mais malheureusement, 1869, on est à la veille de la guerre. Et donc, la désorganisation due à la guerre va diminuer le succès des bandages Dupré.
Première partie d'une passionnante conférence que nous a donnée Marc Potet le 8 août dernier à Domcy-sur-Cure, une conférence programmée par l'Association des Amis du Vieux Domcy. Et vous aurez... bien sûr, la deuxième et dernière partie de la conférence de Marc Potet, samedi prochain, 11 octobre, toujours à 11h sur Radion. Si vous voulez approfondir le destin de ce personnage bien singulier, si vous voulez aller plus de manière approfondie vers le père Dupré, bien dans ce cas, procurez-vous la biographie que Marc Potet lui a consacrée et qui a pour titre « Le docteur Dupré, un morvandio extraordinaire », un ouvrage paru avec le soutien et le concours de l'association Mémoire vivante du canton de Carré-des-Tombes. Rendez-vous sur le site de cette association, notamment pour commander le livre, mais également pour découvrir les autres ouvrages de Marc Potet, notamment les 2 tomes intitulés « Les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes » ainsi que « Les inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure ». Je vous propose une dernière pause musicale avant de vous saluer. Réécoutons Kim Carnes, Bette Davis.
Hair is hollow gold, the lips sweet surprise.
Betty Davis eyes, she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Notre Wagon Livre touche pratiquement à sa fin. Samedi prochain, 18 octobre, deuxième et dernière partie de la conférence que Marc Potet a donnée le 8 août dernier. Conférence consacrée au docteur Dupré. Nous aurons l'occasion de voir un petit peu plus son implication politique, comment le docteur Dupré a-t-il appréhendé la Commune de Paris. Et puis Marc Potet reviendra aussi sur la vie dans les cafés, le chansonnier, mais également la figure anticléricale qu'il était. En tout cas, c'est l'occasion, à travers ce personnage, de parcourir de manière particulière par des chemins de traverse la richesse d'un 19e siècle bouillonnant, et puis c'est aussi le rappel de l'apport du milieu rural à l'évolution d'une époque. Je salue et je remercie l'association des amis du Vieux Domcy de nous avoir permis l'enregistrement de cette conférence, ainsi que Marc Potet, le maire de cette commune, et puis je rappelle les noms des de ceux que j'appelle les récitants, Catherine Potet, Christophe Potet et Bruno Davio. Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez en podcast via internet sur le www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre écoute attentive et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.